Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h48. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. L'économie, chapitre majeur de la visite d'État du président chinois en France. On verra exactement où en est la relation entre les deux pays. L'heure de vérité pour la capsule Starliner de Boeing pour concurrencer SpaceX. Et puis la start-up française de l'immobilier Stonal lève 100 millions d'euros auprès d'un groupe américain. Emmanuel Macron mise énormément sur cette visite d'État. Lui, toute la diplomatie française et une bonne partie de nos entreprises exportatrices ou qui ambitionnent de l'être. La présence de Xi Jinping pendant deux jours en France est une opportunité à ne pas manquer. Bonjour Marc Julienne.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Centre Asie de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Que pèse la France en Chine aujourd'hui d'abord et quel secteur principalement ?
Pour la France, la Chine est un marché très important, notamment, enfin en tout cas elle l'était, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Encore plus avant, c'était le domaine du nucléaire civil. L'automobile était un secteur important. Et puis, il y a tout le domaine du luxe, évidemment, qui est toujours en croissance forte. Et dans le luxe, on peut aussi ajouter les vins et spiritueux, qui sont un domaine aussi très important. Et puis on peut ajouter finalement le domaine qui est toujours en développement et qui est sans doute sous-exploité, c'est les produits agricoles, la vente de produits agricoles.
Est-ce que la tendance ces dernières années est à la croissance des échanges entre France et Chine ?
Alors oui, les échanges, ils augmentent. Le problème, c'est qu'ils augmentent de manière asymétrique, de manière disproportionnée, avec des importations qui viennent de Chine qui augmentent et des exportations qui augmentent soit très lentement, trop lentement, soit qui stagnent et pour certains secteurs qui se réduisent.
Alors parlons des sujets qui fâchent. La France a donné de la voix contre les subventions de la Chine à son industrie automobile électrique. La Chine a répliqué en préparant des sanctions économiques contre le cognac français. L'Élysée affirme qu'il n'y a pas de guerre commerciale entre la France et la Chine. Franchement, ça y ressemble un peu quand même.
Oui, tout à fait. Alors, la Chine aussi dit qu'il n'y a pas de guerre commerciale puisque les Chinois nous disent qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'enquête de la Commission européenne dans les subventions des véhicules électriques chinois et la propre enquête chinoise dans le domaine des eaux de vie de vin européens qui seraient exportés vers la Chine. Bon, après, quand on creuse un petit peu, on se rend compte très vite que sur le volume des eaux de vie de vin européens exportés vers la Chine, 96% vient de France. Donc, clairement, même si la Chine nie qu'il y a aucun lien entre les deux enquêtes, évidemment que c'est la France qui est ciblée. Alors, pour le moment, c'est une enquête, mais le résultat de l'enquête chinoise sera évidemment proportionnel au résultat de l'enquête européenne dans le secteur des véhicules électriques.
Ouais. Marc Julienne, est-ce que la visite d'État de Xi Jinping peut faire améliorer l'accès des entreprises françaises au marché chinois, comme l'espère et comme le demande l'Élysée ?
Eh bien, on l'espère tous en réalité, mais ce que l'on remarque, ce que l'on observe, c'est qu'il est de plus en plus difficile de négocier en fait des accès au marché avec la Chine. La Chine n'est pas une économie ouverte, il n'y a pas de libre-échange contrairement au marché européen. Et donc, pour pouvoir exporter des produits français vers le marché chinois, il faut négocier l'ouverture de secteur par secteur, domaine par domaine. Et ces négociations sont très complexes, sont très longues, car les négociations avec la partie chinoise sont extrêmement ardu.
Quel est l'intérêt finalement de cette rencontre pour les deux pays, vous diriez ?
Eh bien, du côté français, pour commencer, il y a un agenda politique quand même qui est très important, qui existait déjà lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine en avril 2023. Et l'agenda politique qui repose essentiellement sur l'Ukraine, d'échanger avec Xi Jinping sur l'Ukraine, d'essayer que Xi Jinping puisse jouer un rôle plus constructif dans cette guerre. Voir qu'il fasse pression sur Vladimir Poutine et en tout cas, surtout qu'il essaie de le dissuader, qu'il n'aide pas davantage Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. Alors moi, je pense que ces objectifs sont un peu contradictoires, puisque ou bien on pense que Xi Jinping peut nous aider, ou bien on pense qu'il s'apprête à aider Vladimir Poutine, mais les deux en même temps, ça me semble compliqué, mais c'est un autre sujet. Il y a aussi la question du Moyen-Orient, où on espère aussi que la Chine puisse jouer un rôle, puisqu'elle a de bonnes relations avec les différents États de la région. Elle peut exercer certains leviers, notamment sur l'Iran, donc il y aurait des discussions à mener dans ce domaine. Et puis ensuite, il y a la dimension économique, et là, on en a parlé, vous l'avez compris, la situation est très compliquée et honnêtement, je ne suis pas très optimiste puisque l'âge d'or des grands contrats, j'évoquais le nucléaire civil, l'aéronautique, l'automobile également, c'était un âge d'or des relations et des grands contrats et aujourd'hui, cet âge d'or est révolu. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on se bat pour arracher un contrat ici et là dans des domaines agricoles extrêmement spécifiques et donc c'est pour ça que je ne m'attends pas à l'annonce de contrats mirobolants qui vont permettre de rééquilibrer le commerce bilatéral entre la France et la Chine.
Et on va suivre effectivement ce qui va se passer. Merci Marc Julienne, cette visite de deux jours, visite d'État. le plus haut rang, hein, des visites dans l'ordre protocolaire des visites diplomatiques, la visite d'État de Xi Jinping en France, aujourd'hui et demain. Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Au moment même où Xi Jinping est en visite d'État en France, tout le secteur automobile se réunit au ministère de l'économie pour la signature d'un nouveau contrat stratégique de la filière. Alors, il n'y a pas d'argent public qui est mis sur la table, mais l'État va s'engager à accélérer et faire accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique. Aujourd'hui, on en a à peu près 130 000 en France. Il s'agit de passer à 300 000 dans les 3 ans qui viennent. Le vieux lion Boeing peut-il rattraper le jeune loup SpaceX? Réponse la nuit prochaine avec le tir prévu de la capsule Starliner emportée par la fusée Atlas 4. Éric Mauban, Starliner a connu des déboires, mais la voilà enfin en phase finale de certification pour les vols habités. D'ailleurs, 2 astronautes seront à bord de ce vol.
C'est ça, un taxi dans l'espace direction la Station Spatiale Internationale. 2 astronautes américains de la NASA vont s'envoler aujourd'hui, alors sauf imprévu dans ce vaisseau construit par Boeing. Leur mission va durer une semaine. L'objectif est d'évaluer les performances des systèmes et de certifier Starliner afin qu'ils puissent réaliser à l'avenir des missions régulières vers la Station Spatiale Internationale. Les astronautes profiteront de ce lancement pour livrer à l'équipage se trouvant dans la Station Spatiale des fournitures essentielles, du matériel scientifique et des équipements de maintenance. Une fois la livraison terminée, eh bien, retour de Starliner sur Terre avec des tests manuels pour évaluer les performances de la capsule. Si tout se passe bien, cela ouvrira la voie à des missions plus longues et ça permettra aussi de concurrencer SpaceX. La première véritablement opérationnelle est prévue pour début 2025.
Éric Mauban, c'était il y a tout juste 30 ans, le 6 mai 1994, la reine d'Angleterre et François Mitterrand inauguraient le tunnel sous la Manche, 50 km de long à 75 mètres de profondeur. À bord de l'Eurostar, des dizaines de millions de passagers rejoignent chaque année Londres depuis Paris en 2h15. À cela s'ajoute le transport de marchandises. Le tunnel sous la Manche, c'est 25% des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et Getlink, la société, le nom nouveau de la société qui exploite le tunnel et bénéficie donc de ce trafic, a connu des années difficiles, mais elle est désormais excédentaire. Elle a dû s'adapter au Brexit en investissant, Zoé Pallier, et en se diversifiant.
Pour s'imposer face à la concurrence des ferries, Getlink promet depuis toujours de faire gagner du temps aux usagers. Avec une traversée de la Manche en 35 minutes seulement et des contrôles efficaces à la frontière malgré le Brexit, elle a investi pour cela 80 millions d'euros. Franck Dersin est conseiller régional des Hauts-de-France.
C'est beaucoup dématérialisé. Pour les transports en camion, souvent c'est fait 2 à 300 km avant, là où on charge. Donc le tunnel a mis des moyens pour assurer un passage rapide.
Malgré tout, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se tassent, moins 10% par rapport à 2019. Getlink cherche donc d'autres sources de revenus, explique l'économiste des transports Yves Crozet.
Ils ont créé une filiale qui transporte des marchandises sur des trains qui s'appellent Europort, des trains de céréales par exemple, qui vont du bassin parisien vers La Rochelle. Et puis dans le tunnel entre la France et la Grande-Bretagne, il est possible aussi de faire passer des câbles électriques. Et ça, bien sûr, c'est une recette supplémentaire. Donc ils ont maintenant une sorte de portefeuille d'activités qui leur garantit une certaine rentabilité.
Se diversifier et trouver d'autres clients, pourquoi pas des concurrents d'Eurostar. 3 compagnies sont intéressées, se réjouit-on chez Getlink, qui veut développer la liaison Londres-Cologne pour concurrencer cette fois-ci le transport aérien.
Zoé Pallier, autre tunnel, celui qui arrive désormais sous le CNIT de la Défense près de Paris, tunnel du RER E. Après l'inauguration vendredi dernier par le Premier ministre, place aux premiers voyageurs aujourd'hui. C'est l'un des chantiers les plus complexes jamais réalisés, 5 milliards d'euros et notamment donc cette nouvelle gare immense. Le RER E devrait à terme aller jusqu'à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Le nord du département est pour l'instant mal desservi. Les entrepreneurs locaux sont donc impatients, note Erwan Caratero du MEDEF Yvelines.
C'est très attendu par les jeunes générations, dans les salariés des entreprises, qui sont demandeurs de davantage de transports en commun pour éviter de prendre la voiture. Donc les entreprises ont aujourd'hui besoin de se rapprocher des gares pour pouvoir aller chercher des jeunes et se rendre attractives auprès d'eux. On sait qu'Airbus va déménager son siège pour se rapprocher entre autres de la gare de Saint-Quentin et on anticipe le même type de mouvement pour le RER E au nord du département. Ce seront des rames neuves mais avec meilleure fiabilité, plus de trains, davantage de certitude d'arriver à l'heure. Et ça, c'est très demandé aussi par les populations, mais également par les entreprises locales.
Et puis, simplifier le pilotage de la gestion des biens immobiliers. C'est ce que propose Tonal, société française qui annonce aujourd'hui un méga investissement de la part de Aeron, une société américaine très présente en Europe. 100 millions d'euros. De quoi ravir son directeur général, Robin Rivaton.
L'investissement stratégique fait par Aareon, leader européen du logiciel pour l'immobilier, a vocation à nous permettre de nous étendre sur les marchés où Aareon est très présent, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et concrètement, on va les aider à mieux connaître leur patrimoine, ce qui peut sembler parfois un peu bizarre, mais quand on gère des très très gros patrimoines, plusieurs centaines ou milliers d'immeubles, c'est pas toujours évident d'avoir toute cette information. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter tous les documents relatifs à un patrimoine immobilier. Ça va être un diagnostic de performance énergétique, ça va être un certificat de conformité réglementaire, ça va être un avis de taxe foncière. Tous ces documents, on va les lire et on va extraire les informations qui sont contenues à l'intérieur par des algorithmes d'intelligence artificielle.
Robin Rivatan sur Radio Classique. Il est...